dans Romains 6. Et on va voir la domination de la mort qui est terminée. Hey, ça, c'est une bonne nouvelle. Comment il dit ça, donc, l'autre? Moi, je trouve ça vraiment le fun que ça soit terminé, la domination de la mort. Hein, comment il dit ça,
donc?
C'est vraiment pas pire, ça.
Oh, c'est quand même une bonne chose.
C'est quand même pas pire que la domination de la mort est terminée. Je vous dirai pas qui j'imite, mais je vais l'imiter. Puis les petits yeux qu'on voit pas, je suis pas capable de faire ça, par exemple.
Oh non.
Non, ça c'est la signature Arsenault. C'est du bord Arsenault, c'est pas du bord Bertrand. C'est ta mère pis ta tante, là, ils ont la même.
Ouais,
pis ta soeur aussi. Ouais. OK. Verset 8. Non, on va commencer au verset 6. Ça va faire le point avec ce qu'on a vu la semaine dernière. Sachant, OK, ça c'est notre deuxième sachant, la deuxième fois que ça dit qu'il faut savoir quelque chose, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Ça, on l'a vu la semaine passée, maintenant. Verset 8, « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. » Donc, c'est la troisième fois ici, hein, ça dit « sachant » au verset 9, « sachant que Christ est ressuscité des morts, et que ça dit que la mort n'a plus de pouvoir sur lui. » Donc, c'est la troisième fois que Dieu nous dit « Je veux que vous sachiez ceci. » Donc, Dieu s'adresse à notre pensée, Dieu s'adresse à notre connaissance. Et c'est 3 sur 3. Il y en avait un au verset 3, au verset 6, maintenant au verset 9. Et c'est cette première section de Romains 6, là, où est-ce que Dieu s'adresse à notre façon de penser, à ce qu'il veut qu'on sache, pour que ça l'amène finalement à la bonne conviction du verset 11. Je vous dis ça en introduction, on va faire un petit saut en avant. Verset 11, « Ainsi vous-même, regardez-vous, ce regard, puis on va le voir, on va passer du temps sur le verset 11, le regard de la foi ici, en anglais, ça dit « reckon ye », on pourrait dire, c'est le mot pour, je pourrais vous le dire en grec, là, « logizomai », un « logbook », les troqueurs, OK? Des fois, on pense à « logique », là, mais tu sais, c'est l'idée de rentrer dans un registre, OK? Fait que là, il dit, « Maintenant que tu sais ça, là, rentre ça dans ton registre, là. Tu sais, maintenant, c'est... Rentre ça dans le logbook, là, c'est fait. C'est-à-dire que maintenant que je sais ces choses-là sur ma mort, mon ensevelissement, ma résurrection avec Christ, là, je me regarde comme... Tu sais, c'est réglé. Je me vois comme mort au péché, vivant pour Dieu. Donc, on s'achemine vers ça. Il nous reste un dernier pas, et c'est celui qu'on fait aujourd'hui. Et on va voir comment c'est bien important. Parce que ici, si vous voulez... C'est l'explication doctrinale, théologique, du principe spirituel qu'on voit dans chapitre 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La domination de la mort est terminée parce que la domination de la vie qui lui est supérieure maintenant domine. Elle a expulsé, la vie a expulsé la mort. OK? C'est ce qu'on va voir. Donc, Paul veut qu'on saisisse non seulement la portée et l'importance majeure de notre union à Jésus dans sa mort, son assainissement et sa résurrection, mais aussi, il veut qu'on en saisisse la magnificence. Comment c'est merveilleux qu'on soit émerveillé de ça, qu'on voit, waouh! Puis je dirais spécialement avec l'emphase sur la résurrection, la vie qu'on a en Jésus-Christ. La même puissance de vie qui a ressuscité Jésus de la mort, c'est celle qui œuvre dans les enfants de Dieu aujourd'hui. Si vous ne croyez pas, vous allez voir Éphésiens chapitre 1. Ça le dit noir sur blanc, 1:19. Je veux dire, c'est cette puissance-là qui agit en nous. Et même plus, le fait que la mort n'a plus de pouvoir sur Jésus-Christ est la base de l'argument de Paul pour dire que le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Parce que la mort, le péché, ça l'agit ensemble. Christ a tout brisé cela et maintenant on en est libéré, ou pour le dire dans une clarté ou une simplicité toute belle, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché puis de la mort. Ok, c'est ça ici vraiment comment la puissance de la vie de Christ nous libère. Et Jésus-Christ est vivant, ok, c'est évident, et il vit au-delà de la puissance de la mort. Il vit de façon permanente, parfaite, éternelle, et nous, en étant en lui, on jouit pleinement de cette vie. Donc, on est en dehors là, j'ai deux mots qui me viennent, dominion puis realm. Hein, ça va bien, mon affaire? Du domaine, on vient en dehors du domaine de la mort. Dieu nous a sortis du domaine de la mort. Maintenant, on est dans le domaine de la vie. Et donc, on va voir trois réponses chrétiennes au fait que la domination de la mort est terminée. D'abord, au verset 8, on voit qu'il faut croire au fait que la domination de la mort est terminée. Au verset 8, ça dit, « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. » On va décortiquer ça ensemble. Remarquez que ça commence en disant, « Si nous sommes morts avec Christ. » Ça signifie ici que Paul prend pour acquis que, rendu où est-ce qu'il est dans son explication, parce qu'il y a déjà pas mal de versets qui parlent là, de cette vérité-là, que rendu là dans l'explication, nous savons que notre vieil homme est mort avec lui. Tu sais que là, c'est réglé, là, je veux dire, j'ai pas essayé de mourir à moi-même, pis ça, non, non. Le vieil homme, c'est réglé, il est mort. Okay? Il prend ça pour acquis parce qu'il en a parlé au verset 6, sachant ça, okay? c'est réglé. Puis à partir de là, dans le verset 8, il parle du fruit de cette mort. Puisqu'on est mort, ça porte le fruit de la vie. Comme je vous dis, la puissance de l'esprit de vie m'a affranchi. Okay, à cause. Et donc, c'est pour ça que ça dit, si nous sommes morts avec Christ, ok, c'est le fait, parce qu'il vient d'en parler, on est mort avec Christ, verset 6, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Donc le fruit, c'est que, vu qu'on croit qu'on est mort, on croit aussi qu'on vit avec lui. Mais là, on a un petit problème. Ah ben avant de vous parler du petit problème, juste une chose pour le dire autrement. On est joint à Jésus dans sa mort, donc croyons qu'on est aussi joint à lui dans sa vie. Si on partage sa mort, forcément, on partage sa vie. C'est ça la logique ici. Mais là, un petit problème. Pourquoi c'est au futur, vivant? C'est juste pour après la résurrection? C'est juste pour quand on va être au ciel? Pourquoi pas le mis, ben, le Saint-Esprit? Pourquoi ça dit, OK, je vais vous le dire autrement. Si nous sommes morts avec Christ, croyons aussi que nous vivons avec lui. Pourquoi ça dit pas nous vivons, puis ça dit nous vivrons? C'est bien plate, ça, quand ça fait ça. Ouais. Là, il faut qu'on trouve une explication.
Ça va être au ciel.
Pour l'instant, on vit pas, là. Non, non, écoutez bien, je vais vous donner une explication, c'est simple. Pourquoi vivrons est au futur? Bien sûr, ça l'implique l'avenir, le futur. Tu sais, le salut, là, c'est en trois temps. Quand on a reçu Jésus comme notre sauveur, on a été sauvé de la pénalité du péché. Okay? C'est arrivé au moment de notre salut, on a été déclaré juste par Dieu, on est passé de la mort à la vie. Maintenant, dans notre vie quotidienne, dans le présent, de plus en plus, on est délivré, libéré de la puissance du péché. Donc, passé, présent, puis un jour, gloire à Dieu, on va être délivré de la présence même du péché. Au ciel, plus de péché. Okay? Puis ici, bon, certainement que quand ça dit « nous vivrons avec lui », il faut comprendre que l'implication du troisième temps du salut, quand on va vivre dans une félicité éternelle, puis il n'y aura plus de péché, puis tout ça. Mais je crois qu'il y a plus que ça. Oui, quand on va le voir face à face dans nos corps glorifiés, on va être dans la vie parfaite. Mais ici, il y a un parallèle à faire avec ceux qui prennent des notes, Galates 2.20. Il y a un parallèle direct à faire avec Galates 2.20. C'est-à-dire que le temps futur qui est utilisé ici, c'est pas tant pour référer à ce qui va arriver plus tard, plutôt que pour parler que ce qui est la conséquence certaine et directe de notre union avec Christ. Autrement dit, si je suis mort, ben c'est certain que je vais vivre. Fait que c'est pas juste pour dire au futur dans le sens là, plus tard, dans le ciel. C'est comme, s'il y a cette mort-là, ben c'est sûr que là, je vais croire que je vais vivre à partir du moment que je suis mort, ben mon nouveau futur, à cause que je suis mort, ben c'est que je vais vivre. Fait que c'est comme un futur qui commence maintenant. Comprenez-vous? C'est pas comme s'il parle dans bien longtemps. C'est comme, à la minute que t'es mort avec Christ, ben là, ça fait que à partir de ce moment-là, ton futur, c'était déterminé par la vie. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Que c'est plus que juste de dire au ciel. Parce que sinon, ça marcherait pas, c'est sûr, on serait pogné. Ah ben là, on est dans la mort, puis là, à un moment donné, au ciel, là, ça va être le fun, on va commencer à vivre. Tu sais, ça marcherait pas avec tout le reste du chapitre, anyway. Là. C'est comme ça. Je crois qu'il est le plus simple et le plus clair de comprendre ici le temps du verbe. Et en plus, ça communique que notre vie ici-bas est débutée, mais n'est pas complétée ici-bas. Dans le sens que, tu sais, c'est beau, on a la vie de Jésus-Christ et tout ça, mais tu sais, le meilleur est à venir. Là. La plénitude de ce que Dieu a commencé, ben ça va aller à sa culmination quand on va être au ciel. Fait qu'il y a un sens futur de, tu sais, Dieu a commencé en nous cette œuvre. Oui, on a cette vie, puis on l'expérimente. Mais la plénitude de tout ce que c'est la vie que Dieu nous a donnée, ben on va l'avoir pleinement au ciel. Fait que comprenez-vous, si on le comprend de même, ça fait du sens. Puis là, ensuite, ça nous amène vers le verset 9 qui nous donne la raison de cette assurance qui est donnée. Okay? Dans le verset 9, ça dit « sachant ». C'est notre mot, là, notre mot important, parce qu'on l'a vu à trois reprises. « Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. » Ça, c'est l'expression la plus importante de notre texte aujourd'hui. Mais là, je pose la question, on a un autre problème. Hein, c'est bon, on a deux problèmes. On a réglé un, la question du futur. Mais pourquoi le Saint-Esprit met le mot « croire » dans le verset 8 avant le mot « savoir » dans le verset 9? Il me semble que d'habitude, on sait quelque chose, puis on y croit. Mais là, on croit quelque chose, puis là, on sait. Tu ne trouvais pas que... Moi, en tout cas, quand je dis ça, je dis, mettons que moi, s'il m'avait demandé mon avis, là, puis il ne l'a pas fait, heureusement, là, moi, j'aurais mis « savoir » avant « croire ». Parce que tu crois quelque chose que tu sais, sinon tu crois comme dans le beurre. Bon, on s'entend que c'est... On est rendu au verset 8 et 9, là. C'est pas comme s'il était au début de ce qui a amené. Je vous donne l'explication. Ici, la connaissance, là, ce que Dieu veut qu'on sache au verset 9, la connaissance dont il est question, c'est un retour constant à la base de notre foi, à l'objet de notre foi. Autrement dit, on croit au fait que la domination de la mort est terminée. OK? Parce que dans notre pensée, là, en dedans de nous, là, on se rappelle constamment de notre union avec Jésus-Christ. OK? Donc, il y a comme une roue qui tourne. Je crois que je suis, tu sais, je suis mort avec Christ, donc je crois que à cause de ça, je vais vivre avec lui. Puis je me rappelle ça constamment, je sais ça, parce que je vois que la domination de la mort est terminée. Autrement dit, je vis avec cette certitude, cette foi dans la vie de Christ, parce que je sais que la question de la mort, c'est réglé. Tu sais, la mort, là, elle n'a plus de domination dans ma vie, ça a été brisé, là, tu sais. C'est réglé, donc, de cette connaissance-là, continue toujours ma foi dans mon union avec Jésus-Christ, dans sa mort, sa résurrection. Je vous l'amène sous un autre angle pour essayer de vous aider à comprendre. Pour pleinement jouir, pleinement, là, de la victoire que Jésus-Christ nous a donné, on doit constamment, à chaque jour, se réaffirmer, se rappeler, j'ai été crucifié avec Christ, c'est un fait. Et si je vis, c'est plus moi qui vis. C'est Christ. Vous savez quoi que ça, là, on doit vous lever le matin, là, vous sentez tout de travers, là, attends un peu, là. J'ai été crucifié avec Christ. C'est plus moi qui vis, là. C'est Christ qui vit en moi. Fait que le vieux tout de travers qui se réveille le matin, là, il est mort avec Christ. Maintenant, c'est Christ qui vit en moi. Ou pour le prendre dans les mots de notre texte, le vieil homme, là, puis des fois, écoute, non, mais ça me sent un vieil homme puis vieille femme un matin, là. Tu sais, ça arrive des matins, là, où en plein milieu de la journée, ben, je sais, là, qu'il a été crucifié avec Christ. Puis, c'est réglé. Puis ça fait que le péché, la puissance du péché a été brisé dans ma vie. Ça, c'est des choses qu'on doit constamment se réaffirmer par la foi. Comme on l'a vu ce matin, on ne se sent pas toujours de même, mais le fait est là qu'il faut toujours constamment se le rappeler. Notre foi s'accroche à ça. Pourquoi? Parce qu'on sait que on a tendance à oublier. Des fois, on sait la chose, mais on a tendance à l'oublier. Elle a tendance à perdre un peu sa fraîcheur, cette vérité-là. Parce que on vit pas tout le temps à la lumière de cette vérité-là. Tu sais, avec ce qu'on vit, ce qu'on ressent, des fois, voyons, il me semble que ça n'a pas autant la force, la présence que ça peut avoir à d'autres moments. La réalité du péché en nous, le monde dans lequel on vit, tout autour de nous, ça brouille notre vision spirituelle sur les faits établis. Les faits sont là. Tu sais, il y a un soleil dans le ciel, même quand il y a des nuages. Mais des fois, on oublie. Ouais, oh, Claude, ça fait longtemps qu'il n'y a pas fait de soleil. Mais le soleil a été là tout le long. Il a juste été caché par les nuages. Mais des fois, les choses de la vie, le péché en nous, ouais, oh, non, il me semble que cette vérité-là de ma mort avec Christ vivant pour lui, c'est juste des nuages. Tu sais, les faits sont encore là. OK? Puis là, c'est bien important, le péché n'a jamais eu de pouvoir sur Jésus. Jamais. OK? Il a été tenté en toutes choses sans jamais pécher. Puis la mort a eu pouvoir sur lui 3 jours. Tu sais, je veux dire, il est allé dans le tombeau puis tout ça. Puis ensuite, elle a perdu toute son emprise sur lui pour l'éternité. Mettons que ça n'a pas été une très longue victoire. C'est pour ça que ça dit dans le psaume 16, « Quand tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, » c'est un psaume messianique, ça parle de Christ, « Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. » Puis nous, lorsqu'on est en Jésus-Christ, lorsqu'on est en lui, savez-vous que la Bible nous dit qu'on ne verra même pas la mort? Si vous ne croyez pas, je vais vous laisser Jésus lui-même le dire, puis c'est suivi de « en vérité, en vérité ». C'est précédé, pardon. « en vérité, Jésus dit, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Donc, la domination est terminée, on ne la verra même pas. Notre corps va mourir, puis on va aller directement dans la présence de Dieu. Maintenant, comment ça nous aide de savoir ça par rapport à Jésus-Christ et à nous autres? Content que vous demandiez, je vais vous répondre. Ça nous aide dans le sens que nous partageons cette vie, cette grâce. La Bible nous dit que nous sommes participants de la nature divine, en 2 Pierre au chapitre 1, verset 4. Et donc, savoir cela, c'est la base de notre appropriation du fait grandiose que la domination de la mort est terminée. C'est pour ça que le verset 9 est tellement important et ça scelle, ça conclut l'ensemble de la section sur ce que Dieu veut qu'on sache. La mort n'a plus de pouvoir sur Christ. Donc, elle n'a plus de pouvoir sur nous autres. Et donc, Dieu veut qu'on sache ces choses pour vivre une vie chrétienne victorieuse sur le péché et dans le règne de la grâce. Hein, c'est ça que ça dit, la fin du chapitre 5. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pas de moindre importance. C'est pas une vérité à passer vite que celle qu'on considère. Pour essayer d'aller vite, rapidement. Alors, OK, c'est où la pratique, là, qu'il faut que je m'offre à Dieu, là? Verset 12, que le péché ne règne donc point, OK? Puis, OK, livrez pas vos membres au péché, livrez vos corps, vos membres à la justice. Non, il faut pas passer vite par-dessus ce que Dieu nous dit, qu'il veut qu'on sache, qui produit la conviction, sinon on fait des offrandes pas vides, mais pas vaines non plus, mais je veux dire, sont pas régénérés par l'intelligence. T'sais, on fait quelque chose, c'est comme un zèle sans intelligence. Dieu, je me donne, mais c'est moi. Puis on comprend pas que, non, ça vient de ce que Dieu a fait de nous en Jésus-Christ. Non, la base, c'est la conviction que tout ce qu'on va savoir sur ce qu'on est en Jésus-Christ, la conviction que ça va produire, verset 11, ça va produire finalement une offrande à Dieu, comme dans les versets 12 et 13, qui est vivante. Qui est vraiment par le renouvellement de l'intelligence et qui nous permet réellement, pleinement et puissamment de vivre ce verset qu'on s'offre à Dieu en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et c'est là la troisième réponse du chrétien au fait que la domination de la mort est terminée. C'est dans le verset 12. Non seulement... J'ai vraiment fait une niaiserie. Dans mon copier-coller, là, mes points là-dessus, c'est des points d'un matin, puis c'est pas le même message. C'est bon, hein? En tout cas. Non seulement on doit croire au fait de la domination, que la domination de la mort Et terminé, on doit savoir ce fait-là et finalement, on doit vivre le fait de la domination, de la mort terminée. Il y a une distinction ici importante à faire par rapport ici. Ça dit, on va lire le verset 10. « Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. » Il faut comprendre ici, quand ça dit « c'est pour le péché qu'il est mort », c'est dans le sens où peut-être qu'on devrait dire « il est mort au péché ». Parce qu'ici, c'est pas... ici, la mort au péché ici qui est à comprendre, c'est pas dans le sens de l'expiation. C'est pas comme Jésus a payé pour mes péchés. Ça en parle dans les chapitres 3 à 5. Ici, ça nous parle de notre mort avec Christ. C'est pas Jésus qui est mort pour mes péchés, c'est Christ qui est devenu péché pour moi. C'est mon identification à Christ dans sa mort. Comprenez-vous? C'est pas juste qu'il a payé pour mes péchés, c'est qu'il a payé pour mon péché, le péché en moi. Comprenez-vous? C'est dans mon union avec lui, c'est occupé de moi, là, le pécheur. Donc, c'est pour ça que mort au péché, c'est plus approprié, comme ça le dit au verset 11, d'ailleurs. Regardez-vous comme mort au péché. Fait qu'ici, vraiment, c'est ça, c'est une question de relation plus que d'expiation. Dieu a brisé la relation qu'on a avec le péché. Non seulement il a brisé la pénalité du péché, Dieu ne nous tient plus nos péchés contre nous, ça c'est le sang qui s'occupe de ça. Vous rappelez-vous, on a vu ça. Mais là, on parle de la croix qui s'est occupée du péché en tant que principe. Ma relation que j'avais avec le péché était mon maître. Ça a été brisé par la croix. Fait que Dieu s'est occupé du péché en me faisant mourir avec lui sur la croix. OK? D'ailleurs, si vous voulez une référence parallèle là-dessus, ça nous dit, « Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » OK? C'est vraiment, c'est dans ce sens-là, c'est... Ça comprend l'expiation, mais c'est plus que ça, c'est... On devient justice de Dieu en Christ parce qu'il est devenu péché pour nous. OK? Ou pour le dire autrement, écoutez bien la phrase que je vous dis, c'est une belle phrase. Jésus est devenu ce que nous étions, OK? Il s'est identifié à nous dans notre péché, OK? Il a fait devenir péché pour nous. Afin que nous devenions en lui ce que lui est juste. Méchant bel échange, hein? Il a pris le pas bon de nous autres, puis il nous a donné le bon de lui. C'est le parfait échange, tu ne peux pas avoir mieux, là. Comment rejeter une pareille offre? Donne-moi tout ce qui est de mauvais, je le prends, puis tout ce qui est bon, je te le donne. Comment on peut rejeter une pareille offre de grâce? C'est ça le deal en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, sans péché, lui sans péché, non seulement a porté la culpabilité du péché, mais aussi m'a délivré de la nature même du péché, ma nature adamique. Il a pris mon ancienne tête, Adam, et lui est devenu ma nouvelle tête. Je suis maintenant en Jésus-Christ. Nous avons donc été délivrés de la responsabilité que nous avions d'offrir à Dieu une justice parfaite. Dieu, Jésus l'a fait à notre place. Puis d'ailleurs, là-dessus, lisons chapitre 8, verset 3, en référence parallèle. « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, » Dieu a condamné le péché dans la chair. Ça nous parle de l'œuvre de Christ en notre faveur. En envoyant à cause du péché son fils dans une chair semblable à celle du péché. Afin que la justice de l'œuvre soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, ce que ça veut dire, Dieu ne nous a pas réformé. Il n'a pas réformé le vieil homme. Alors, le vieil homme, là, on va l'embellir. On va faire un facelift. Non, il l'a crucifié. Il n'y a plus rien à faire avec lui. Il l'a crucifié afin de nous délivrer du vieil homme. Puis il nous a unis à lui-même. Je vous dis, là, tu peux pas imaginer mieux. Là. Tout est parfait. Là. Tout est tellement... C'est extraordinaire. Et ça nous dit à la fin du verset 10. Je relis le verset 10. « Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort. » Ou « C'est au péché qu'il est mort, comme vient de l'expliquer, une fois pour toutes. » Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. OK? Et si lui, il vit pour Dieu, nous sommes en lui, maintenant nous vivons pour Dieu. C'est tout ça la base de dire, ben là maintenant, là tu sais tout ça, là, regarde-toi comme mort au péché, puis vivant pour Dieu. Puis croyez-le ou non, là, même si On a passé ce temps-là pour se préparer le verset 11. J'ai déjà revenu, j'ai une couple de messages dans le verset 11. Fait que juste ça, c'est. Puis je me suis basé sur des écrits de M. Watchman Nee, qui est vraiment un type sympa. C'est un chic type. J'ai hâte de le voir au ciel. Il est né, genre, il était dans les années 20, il est dans quelque chose qui est écrit entre 1920 puis 1927, j'ai dit, ouais, pour moi, lui, il est plus à garantie. Donc, je pense qu'il est mort dans les années 70. Mais c'est un frère bien-aimé chinois qui était très éduqué, très intelligent, puis Dieu l'a appelé auprès de gens très peu éduqués, souvent analphabètes. Fait que les vérités qu'on voit là, là, il les amène dans une simplicité, puis avec des illustrations simples, fait que les grandes... Les richesses incompréhensibles de Christ, il met là, sa première tablette du bas. Là. Puis c'est ça qui est beau avec ses écrits, c'est que il amène ces choses-là qu'on considère ensemble dans une simplicité. Lui, il, comme ils disent en chiac, là, il guettait ça. Il guette. Hein? Elle comprend. Parce que guette, on peut dire, on surveille de même, mais guette, là, you don't get it. Ils disent ça. Là. Ouais. Hein, c'est vrai que vous dites ça, hein?
Ouais, je guettais pas. Pourquoi
c'est ça? Ouais, c'est ça. Je guettais pas. Ah, ils sont drôles, les autres, là-bas. Ils sont tous pareils dans ce coin-là. Là, là tu les entends parler. C'est drôle. Ouais, c'est le genre de tribu, là. C'est intéressant. On était en observation l'autre jour, voir cette tribu, c'était drôle. Ah, on a eu du fun, hein, quand on est allé au mois de septembre, octobre.
Le monsieur qui parlait, puis on
comprendra les propos. Hé! Ça, c'est un... Ça, là, c'est comme trouver une espèce d'animaux rares, là, que, tu sais, en voie d'extinction, là. Là, il parlait, là, puis...
Et là, on était tous comme, ah, ah, ouais, ah, ok, cool.
On comprenait rien, là. Tu sais, fallait être poli, là, mais on comprenait absolument rien de ce qu'il disait. Ah, mais hey, j'ai fini, je vous dis juste une petite chose en terminant. Dieu nous a dit, votre histoire recommence sur des nouvelles bases. C'est ça, notre union avec Jésus-Christ. Notre histoire recommence comme lors de la Pâque. Savez-vous quoi, lors de la Pâque? Écoutez, tu sais, tout est incomplet en Jésus-Christ, hein, mais saviez-vous la Pâque, ça dit dans Exode, là je vais vous sortir un verset obscur, je vais vous faire dire n'importe quoi, non, non, mais ça dit dans Exode 12:2, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois et sera pour vous le premier des mois de l'année. Tout recommence en Jésus-Christ. Tu sais, la Pâque, c'est Jésus-Christ, Jésus est notre Pâque. Ben, c'est ça, Dieu nous donne un nouveau commencement en lui. Puis c'était prophétisé, c'était, tu sais, on sait que tout nous pointe à Christ, on l'a vu, hein, les Écritures rendent témoignage de Christ. Et donc, on l'a accompli maintenant en Jésus-Christ. Ou pour le dire dans les mots de la Nouvelle Alliance, si quelqu'un est en Jésus-Christ, des choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelle année, nouvelle, tu sais, tout a recommencé. Quel jour! D'ailleurs, on a un cantique là-dessus. Oh, quel jour ça fait! Je ne me rappelle plus les paroles. Là. Quel jour merveilleux ce fut, ouais, c'est ça. Donc, quel jour lorsque Jésus a été fait péché pour nous, qui est mort au péché une fois pour toutes, et en vertu de ça, nous vivons en lui. Je vous laisse. Ça, c'est tellement beau. Là. Il y a deux. Je vous lis deux passages. Vous n'avez pas le choix de m'écouter. Là. Je vous oblige à écouter ces versets-là. Ils sont trop beaux. Je pense que vous voulez en plus. C'est encore mieux. C'est le fun d'obliger du monde qui a le goût d'entendre.
Il y a une audience captive.
Oui, exactement. Hébreux 10. C'est beau, Hébreux 10. Hein? Dans ton témoignage, je sais que toi, ça a trahi. Là. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Puis écoutez bien, Éphésiens chapitre 4 verset 20 à 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Là, ça parlait des païens qui ont la vanité de leur pensée et tout ça. Si du moins comme vous l'avez entendu et conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Savez-vous qu'est-ce que Dieu fait avec nous autres? Il est en train de nous apprendre Christ. Et on l'a vu ce matin dans Colossiens, on a été dépouillés On l'a vu ça aussi la semaine dernière dans le message. On a été dépouillé du vieil homme, on a revêtu le vieil homme. Puis ici, quand ça dit, c'est pas comme si Dieu nous met un fardeau qu'il faut. Il dit, vis à la lumière de ça. C'est comme s'il nous dit, comme ici, offre tes membres, comme quelqu'un qui est passé de la mort à la vie, comme quelqu'un qui était en Adam, qui est maintenant en Jésus-Christ, qui. C'est ça, vieil homme versus nouvel homme. Et donc, ça nous prépare pour ce qu'on va voir. Comme je le disais, pas la semaine prochaine, parce qu'on va avoir un témoignage la semaine prochaine. Ça, c'est le fun, les témoignages. J'ai hâte de voir le monsieur qui m'a donné le témoignage. C'est une créature intéressante. Une créature très... Ouais, c'est ça. Avez-vous des questions? Quelqu'un me dit, ouvre la porte aux questions, parce que vu que des fois, c'est ça. Oui, Mme Tessier.
Si je recule à quand tu as commencé le point de vivre à la lumière que la domination de mon ami,
ouais.
Tu as amené que c'était une question de relation, puis là tu as fait le parallèle avec, dans le fond on parlait comme que là, la puissance du péché, on parlait comme l'aspect de la croix versus le sang.
Ouais.
L'aspect sang, est-ce que c'est ce qui nous a libéré de la pénalité? Est-ce que c'est un bon parallèle?
Oui.
Fait que pénalité, c'est ouais. Sang, ouais. Puissance, c'est croix. Y a-tu de quoi avec présence?
Ben, la résurrection. À cause de ce verre, maintenant, on va être dans la vie, tu sais.
Okay, ouais.
Tu sais, c'est pour ça que là, on goûte à la vie, on a les prémices de l'esprit, mais tu sais, on n'est pas encore pleinement dans la vie. On goûte à cette vie, puis. Mais tu sais, elle est teintée, là, malheureusement, à cause. Du péché en nous, puis tu sais, autour de nous, puis tout ça, puis... Ouais. Hein, c'est un bon parallèle, ça. Intéressant. Oui, Mr. Bertrand.
J'ai manqué un peu le parallèle que vous avez fait avec la Pâque, là, dans l'Ancien Testament, puis...
Ben, c'est qu'à la Pâque, là, je lis le verset, ça dit, ce mois-ci sera le premier des mois. Tu sais, c'est comme si là, OK, on remet le calendrier à zéro.
OK.
OK? Puis c'est ça, il vous sera le premier des mois de l'année. Ben, tiens, en Jésus-Christ, Dieu a fait toutes choses nouvelles. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Fait que tu sais, c'était la Pâque, qui est Christ notre Pâque, ça préfigurait le fait que maintenant, en Jésus, toutes choses est nouveau. Ouais.
C'est un great reset.
Hein, c'est vrai! Amen! C'est ça le vrai bon great reset. Oh, man! Y a pas d'autres questions? Ah... Je vous aime donc, vous êtes extraordinaire. Oui, Mylène, ah, mais j'avais fini la période de questions. Là, je suis moins content, là, je suis moins...
C'est pas vraiment une question, c'est avoir un lien de
M.
Watchman
Nee. Ben, j'ai un livre.
Un lien, OK.
Ben, un lien. Ben, si tu fais Watchman Nee, puis... lui, là, son classique, c'est la vie chrétienne normale. C'est vraiment... c'est très, très bon. D'ailleurs, moi, sur Reckoning, je me base très, très beaucoup sur son chapitre là-dessus parce que tout est pas mal là, puis ça l'aide vraiment, tu sais, puis... fait que c'est ça. Je vais pas réinventer la roue, puis tout ça, mais... fait que Watchman Nee, hein. Good. Ah, Seigneur, c'est merveilleux d'avoir du temps comme ça dans ta parole. Merci pour ton peuple qui a soif de toi, qui s'abreuve des paroles de vie. C'est tellement une joie, Seigneur, puis je me sens vraiment privilégié de pouvoir partager ces perles merveilleuses de ta parole, Seigneur. Et tu nous en revêts, Seigneur. Nous sommes des enfants du grand roi, Seigneur. Et toute la beauté de Christ que tu nous revêts, c'est merveilleux, Seigneur. C'est pas nous qui s'en glorifie, c'est toi, Seigneur, qui nous a revêtus. Et comme on se réjouit en toi, Seigneur. On te bénit, on te loue, au nom de Jésus. Amen.